droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet autre numéro de votre magazine Mon droit au quotidien. Un numéro spécial aujourd'hui, vu que nous entamions une nouvelle année, pas dans le sens de procéder au traditionnel vœu, mais il était important pour nous d'ouvrir l'année 2023 en procédant à une sorte de rétrospective d'actions marquantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme en 2022 en Côte d'Ivoire. Cette action ne pourra être exhaustive, elle sera donc sélective. De fait, nous aurons l'occasion de revenir sur trois moments forts, selon notre jugement, qui ont marqué la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire durant l'année 2022. Soyez les bienvenus à ce numéro de Mon droit au quotidien.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Pour donc procéder à ce passage en revue des trois actions marquantes que nous avons jugées utiles d'aborder dans ce numéro de Mon droit au quotidien de ce jour, à mes auditrices et auditeurs, je reçois comme invité M. Kwasi Alfred. Il est conseiller aux droits de l'homme, représentant des organisations de promotion et de protection des droits des personnes handicapées au CNDH, entendez par là le Conseil national des droits de l'homme. M. Kwasi Alfred, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous voudrons aussi, par votre canal, remercier la présidente du CNDH d'avoir donc donné ce quitus afin que nous puissions vous avoir comme invité pour procéder donc, comme je l'indiquais dans ton introduction, à ce passage en revue d'actions marquantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme durant l'année 2022 en Côte d'Ivoire. Trois actions nous ont paru marquantes et importantes à passer donc en revue durant notre temps d'antenne ce jour avec vous. Nous parlerons tour à tour du renforcement du dispositif légal dans la lutte contre les violences domestiques, le viol et les autres violences sexuelles non domestiques en Côte d'Ivoire. Aussi de la participation des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire à travers un projet. Et nous terminerons avec donc, on va dire, c'est là de soi, venant du CNDH. C'était important pour nous de faire donc un clin d'œil au CNDH qui a donc eu l'occasion le lundi 19 décembre 2022 dernier, de présenter à l'hémicycle ivoirien son rapport annuel de l'année 2021 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce point fait, je me tourne vers vous, M. Kwasi Alfred. Voyons ensemble le premier point, savoir le renforcement du dispositif légal dans la lutte contre les violences domestiques, le viol et les autres violences sexuelles non domestiques. Pourquoi est-ce important que l'on puisse comprendre que le viol est une atteinte aux droits de l'être humain?
Alors, je voudrais vous remercier donc pour cette émission et dire qu'effectivement, on va dire même que c'est un grave problème. C'est une très grave atteinte parce que la personne n'est pas consentante et on ne peut pas imposer à quelqu'un ce que la personne ne veut pas. D'autre part, c'est une agression physique qui cause d'énormes séquelles, d'abord des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Souvent, la personne est totalement déstabilisée et elle ne se retrouve plus jamais. Donc ce sont des choses à ne jamais faire, à ne jamais autoriser et à condamner sévèrement. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de survivantes. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui succombent, qui ne s'en sortent pas et qui meurent, qui décèdent. Et puis cela aussi souvent touche des enfants à très bas âge. Et on ne sait pas pour quelles raisons des personnes vont jusqu'à violer ces enfants. Et aussi des personnes même très âgées sont concernées, qui sont aussi agressées de cette façon-là. Donc en fait, c'est un véritable fléau, on va le dire, parce que nous, au niveau du CNDH, on avait enregistré beaucoup de cas. Et on a dénoncé cela dans nos rapports précédents. On n'a pas arrêté de dénoncer. Et je crois qu'il y a une telle évolution. On va en parler tout à l'heure.
Parlant donc d'évolution, il est intéressant de noter qu'en vue de lutter efficacement contre les violences domestiques, le viol et les autres violences sexuelles non domestiques, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une législation qui érige en infraction pénale et punit comme telle les atteintes de toute nature à l'intégrité physique et psychologique de la personne. Cela ressort bien de notre nouveau code pénal. Et donc, deux points nous ont retenu notre attention. D'abord, le point portant sur la procédure de délivrance de l'ordonnance de protection, où l'on maintenant demande que cette ordonnance de protection soit délivrée de façon rapide et diligente. Et le second point porte sur la non-exigence de la production préalable d'un certificat médical avant l'ouverture de l'enquête et de l'instruction judiciaire de la procédure. Alors, concernant ce point-ci, la non-exigence de la production préalable d'un certificat médical avant l'ouverture de l'enquête et de l'instruction judiciaire de la procédure. Pourquoi ça marque une avancée dans le domaine de la lutte contre les violences domestiques, le viol et les autres violences sexuelles non domestiques en Côte d'Ivoire?
Le viol crée des séquelles très graves, psychologiques surtout, physiques également. Et les personnes qui ont été victimes de viol ont du mal même à en parler. Et lorsque cette personne doit aller exposer la situation et que la personne doit aussi payer de l'argent pour faire constater qu'elle a été violée et que c'est par un certificat médical que cela peut se faire et que cela est payant, 50 000 francs, que la personne ne l'a pas, bien souvent, ces personnes préfèrent se taire. Et donc, c'est une véritable avancée lorsqu'on peut aller porter plainte et qu'on peut prendre en compte la plainte sans forcément que la personne n'ait à délivrer le certificat médical. Ça peut encourager à dénoncer les cas de viol, ça peut aussi encourager à pouvoir, n'est-ce pas, protéger donc ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de protection, mais qui sont cachées, qui ont peur, par manque d'argent, d'aller vers les autorités, aller signaler la situation et ne pas avoir de solution parce qu'elles n'ont pas de moyens pour prouver ce qu'elles ont déjà subi d'aussi grave.
Avancer de nature à permettre aussi de délier les langues, que les victimes puissent s'exprimer plus facilement,
mm-hmm. que les victimes puissent être prises en compte plus facilement. Parce qu'auparavant, on dit, mais écoutez, vous dites que vous avez été violé, mais quelle est la preuve? Voilà, apportez-nous la preuve, apportez un certificat médical. Et souvent, les personnes mettent du temps pour pouvoir partir s'exprimer. Et entre le temps que la personne a été violée et le temps que la personne va venir s'exprimer, et même quand la personne va passer devant un médecin, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir changé. Donc, ça fait que beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer. Mais les questions de viol ne sont pas seulement que physiques. Mais une petite fille de 2 ans, il suffit même de commencer à faire quelques attouchements, c'est assez grave. Donc, un enfant comme ça qui va parler, et que la mère peut-être ne va même pas aller porter l'affaire devant les autorités, et l'enfant qui sera traumatisé à jamais. On a reçu tellement de cas que, franchement, je crois que c'est une avancée parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des moyens pour porter sa situation d'une telle gravité devant les autorités compétentes.
Alors, voyons aussi un second point en rapport donc avec les mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques en Côte d'Ivoire. L'un des points aussi qui a retenu notre attention, c'est au niveau de la protection, l'ordonnance de protection des victimes. Il est noté par exemple que par le passé, c'est vrai, le code pénal ivoirien touchait ces aspects-là. Lorsque l'on parle d'interdiction de paraître en certains lieux pour les auteurs, l'interdiction du territoire de la République ou encore la caution de bonne conduite, et certaines insuffisances qui ont été notées. Et dorénavant, il est indiqué donc en vue de remédier à cette situation, la Côte d'Ivoire donc a adopté la loi numéro 2021-894 du 21 décembre 2021. Relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Et là, il est maintenant demandé que les autorités, en tout cas compétentes, hein, puissent délivrer de façon rapide une ordonnance de protection pour la victime, ce qui représente un gage de sécurité. Alors, parlant d'ordonnance de protection, pour la bonne compréhension de ce point pour nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que ça revêt concrètement comme réalité lorsque l'on parle d'ordonnance de protection de victimes?
Ici, il s'agit, comme on l'a dit, de victimes. Des personnes qui se retrouvent en danger, des personnes qui sont menacées, qui ont soit subi, déjà commencé à subir des cas de viol, de violences sexuelles, à l'intérieur même de leur famille, ou en tout cas dans une situation de ce genre, mais il se trouve que la répétition est possible. C'est-à-dire que ces personnes qui pensent qu'il n'y a personne pour les punir. Donc, ils se permettent tout. Et ici, il s'agit d'empêcher qu'il continue. Donc, pour empêcher qu'il continue, dès que la personne vient voir le procureur de la République pour dire « Je suis victime, je suis menacé, voilà ma situation », automatiquement, c'est ce qui est dans la circulaire du ministre, on doit déclencher le processus de protection. Automatiquement. C'est-à-dire, une fois que le procureur l'a écouté et que le procureur a jugé important de protéger cette personne, automatiquement, on déclenche le processus de protection de la victime. C'est une façon de dire, si vous êtes en danger, si vous êtes victime de tels actes, si vous êtes menacé, saisissez les autorités. Portez votre cas devant les procureurs de la République pour que vous soyez protégé systématiquement. Dès lors que la personne a dit, je suis menacé, en ce moment-là, automatiquement, on commence à protéger la personne. Et c'est vraiment extrêmement important pour éviter des violations graves de droits de l'homme. Parce qu'en matière de droits de l'homme, c'est la prévention qui est la chose la plus importante.
Merci à vous. Juste indiquer à celles et ceux qui viendraient donc de se connecter sur Radio de la Paix que vous suivez le magazine Mon Droit au quotidien. À l'entame donc de cette année 2023, nous avons décidé de passer en revue certaines actions marquantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme intervenues en Côte d'Ivoire en 2022. Et pour en parler, mon invité se nomme Kwasi Alfred. Il est conseiller aux droits de l'homme, représentant des organisations de promotion et de protection des droits des personnes handicapées au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Je reviens à vous, Monsieur Kwasi Alfred, après cette petite pause. Voyons à présent un projet dont vous êtes, vous me répétez, vous êtes le chef de projet. Donc, savoir donc ce projet pour le renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un projet qui a retenu notre attention parce que en Côte d'Ivoire, ça marque un tournant important quant aux droits des personnes vivant avec un handicap ou handicapées de pouvoir participer de façon inclusive au processus électoral en Côte d'Ivoire.
Ah oui, c'est un droit, comme vous l'avez dit. Ces personnes font partie donc de la population. Et chaque membre de la population est libre, n'est-ce pas, de choisir donc les dirigeants. Et il n'est pas question que les personnes en situation de handicap ne puissent pas, n'est-ce pas, prendre part à ce processus de décision pour choisir librement les dirigeants de leur pays, de leur localité, de leur commune ou même de leur circonscription. Ces personnes doivent pouvoir participer. Mais pour cela, il est important qu'on comprenne qu'il y a des mesures particulières qu'il faut prendre. Vu la spécificité de ces personnes, c'est-à-dire en termes de handicap. Celui, par exemple, qui a un handicap moteur et qui se déplace donc avec une chaise roulante, il faut penser que dans les établissements primaires ou secondaires qui servent de lieu de vote, bien souvent, il n'y a pas de commodité pour permettre la circulation avec les fauteuils roulants jusqu'à la salle de classe qui sert de bureau de vote. Donc, il faut prendre des mesures, n'est-ce pas? S'il faut peut-être mettre des
rampes d'accès.
Il faut mettre ces rampes d'accès. Je veux dire, s'il faut modifier dans ces écoles déjà positionner des rampes d'accès pour que demain, les élèves puissent les utiliser, mais aussi les personnes qui viennent voter puissent les utiliser. Mais de façon, on va dire, provisoire, si on doit utiliser des rampes confectionnées avec des planches, il faut le faire. Maintenant, pour l'accès à l'information, même sur le processus électoral, les personnes handicapées ne sont pas forcément au même niveau. Il y a des personnes qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Donc, quand on donne l'information à ces personnes-là, il faut prendre des mesures particulières pour interpréter en langue des signes l'information qui est donnée. Il faut aussi donner l'information de façon donc écrite, je veux dire à travers des affiches, à travers des SMS et autres, parce que ces personnes qui sont allées à l'école peuvent lire donc des SMS, mais ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui comprennent la langue des signes, il faut aussi communiquer pour leur dire qu'il y a un processus qui se déroule. Maintenant aussi, par exemple, au niveau des albinos qui viennent pour voter et qu'on veut faire attendre dans le rang, si on ne dit pas à la population que ces personnes ne supportent pas le soleil, que c'est un grave problème pour eux parce qu'ils peuvent avoir des cancers pour cela et qu'il faut leur permettre de voter rapidement et rentrer donc chez elles. Mais si on ne le dit pas, il y a ceux qui sont venus depuis le matin qui attendent ne vont pas concevoir que c'est une personne qui se déplace comme eux veuille passer pour aller voter rapidement. Donc, le projet existe pour attirer l'attention des populations sur la présence au milieu donc de ces populations, de personnes en situation de handicap et la nécessité de leur accorder des priorités, pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de prendre des mesures pour inclure ces personnes véritablement dans le processus électoral, pour attirer l'attention de l'organe en charge des élections sur tout ce qu'il faut faire pour que ces personnes participent effectivement, c'est-à-dire on parle de la CEI, puisque c'est la CEI qui organise les élections, c'est la CEI aussi qui propose les choses au gouvernement. Donc c'est à la CEI de proposer également au gouvernement des mesures à prendre pour permettre aux personnes handicapées donc de participer. Et pour cela, la loi électorale telle que conçue aujourd'hui a mis dans un article quelques dispositions pour permettre à certaines personnes handicapées de voter, mais cela n'est pas suffisant. Donc le projet vient aussi pour qu'on puisse faire des propositions, des recommandations à l'État à travers donc la CEI pour l'adoption d'une nouvelle loi électorale plus inclusive qui prend mieux en compte la question du handicap et de la participation des personnes handicapées au processus électoral dans notre pays.
Avec ce projet, vous êtes optimiste quant à la finalité, que vous puissiez atteindre vos objectifs à ce niveau?
On va dire que nous sommes très très optimistes parce que les choses ont commencé réellement à bouger. Il y a des avancées, on va dire, importantes, puisque nous avons organisé un atelier avec la CEI, et la CEI a commencé à s'approprier véritablement la question, ce qui est déjà le premier pas le plus important. Parce qu'un projet, il est fait pour finir dans le temps, mais la CEI ne finira pas. Donc une fois que la CEI s'est appropriée la chose, pour nous, c'est déjà une très grande avancée. Maintenant, en s'appropriant la chose, les recommandations qui ont été faites donc, au cours de cet atelier pour une meilleure inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux, ces recommandations ont été portées par la CEI devant les autorités. Et ici, quand je parle d'inclusion, il ne s'agit pas seulement d'être électeur, hein, il s'agit aussi d'être candidat.
Exactement, je voulais en venir, hein, parce que lorsque vous parlez de participation, voilà. Je vous dis, bon, écoutez, ce n'est pas simplement voter,
non, c'est pas seulement
mais
voter.
Aussi la possibilité que les personnes handicapées soient en cas d'être candidate.
Et donc, ici, le projet fait aussi la promotion de la représentativité donc, de ces personnes au niveau des partis politiques. Parce que c'est vrai que ce sont des personnes en situation de handicap, mais ce sont des citoyens. Et ce sont les citoyens qui font partie des partis politiques. Donc, de la même façon, on encourage les partis politiques à faire la promotion des personnes en situation de handicap en leur sein. De sorte que dans les conseils municipaux demain, on ait ces personnes-là qui vont attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de prendre des mesures pratiques, des mesures structurelles, mais vraiment des mesures pour que les populations qui sont donc en situation de handicap dans ces communes puissent être aussi des populations qui puissent participer effectivement à cause de ce qu'on les prend en compte et qu'on les inclut dans tout ce qui est processus de développement donc, de ces communes-là.
Voilà. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr sur Radio de la Paix, la fréquence de la paix, le magazine C'est mon droit au quotidien. Nous passons aujourd'hui en revue certaines actions marquantes hein, dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme intervenues en 2022 en Côte d'Ivoire. Et notre invité ce jour se nomme Kwasi Alfred. Il est conseiller aux droits de l'homme, représentant des organisations de promotion et de protection des droits de personnes handicapées au sein du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Dernier virage de notre temps d'antenne, Monsieur Kwasi Alfred. Voyons maintenant ensemble pour revenir à votre maison, savoir le CNDH. Parlons un peu donc en quelques minutes hein, voilà, du rapport annuel de l'année 2021 qui a été donc présenté le lundi 19 décembre 2022 à l'hémicycle ivoirien par donc la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré. Alors, pourquoi c'est important pour le CNDH chaque année de procéder donc à la rédaction et à la présentation de ce rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire?
D'abord, il faut dire que l'exercice, il est issu de la loi qui crée donc le CNDH et qui recommande qu'on puisse, n'est-ce pas, chaque année, élaborer un rapport qu'on présente aux autorités, d'abord le chef de l'État, et on le présente donc aux deux chambres du Parlement, suivi des débats, et après on le rend public. Alors donc, c'est important pourquoi? C'est important parce que l'exercice au niveau donc des droits de l'homme, ce n'est pas de dénoncer pour dénoncer. Il est important qu'on puisse améliorer les situations pour éviter les violations des droits de l'homme. Donc lorsque le CNDH constate qu'il y a peut-être un manquement ou une faiblesse à tel niveau ou une insuffisance là et que le CNDH met en exergue, en lumière ces questions, c'est afin que les autorités puissent améliorer la situation. Parce que, a priori, tout le monde sait que les autorités, par principe, ne cherchent pas à brimer les populations, à faire du mal aux populations. Mais il est important que des structures comme les nôtres attirent l'attention sur quelques insuffisances à tel ou à tel niveau pour que les autorités puissent prendre des mesures pour corriger ces insuffisances. Maintenant, quand on discute avec le Parlement, c'est qu'on est en train de discuter avec l'ensemble de la population, en fait. C'est pour que les questions qui n'ont pas été suffisamment comprises, les députés puissent poser des questions pour mieux comprendre. Puisque ce sont ces députés-là qui représentent les populations et qui sont censés donc aller porter ces informations aux populations. Donc, c'est mieux que les députés même comprennent mieux ce que le CNDH a présenté comme rapport, toutes les articulations, et puis pouvoir expliquer demain aux populations peut-être des éléments qui sont dans le rapport que les populations pourraient ne pas comprendre.
Alors, on pourrait avoir avec vous quelques points saillants, hein, sans être exhaustif, de ce rapport donc année 2021 sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Oui, en fait, le document
est
en trois grandes parties. Il y a l'état des droits de l'homme, il y a les activités donc, du CNDH et puis il y a les perspectives, c'est-à-dire les recommandations et autres. Alors, on va dire quelques mots. Il y a les droits civils et politiques. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a les droits dits de solidarité. Et c'est autour de ces questions-là principalement. Et puis maintenant, on fait des recommandations. Pour nous, c'est important de faire des recommandations. Et chaque année, on revient sur certaines recommandations. Quand on a fait des recommandations et qu'on a constaté que ces recommandations n'ont pas été prises en compte, on répète ces recommandations. Parce que
il m'a prêté à demander est-ce qu'il y a un dispositif qui permet au CNDH de s'assurer vraiment que ces recommandations sont prises en compte.
Oui, en fait, ce qu'on a compris, vous savez, le chef de l'État, par exemple, est très disposé à voir les droits de l'homme améliorés en Côte d'Ivoire. Les fois où on a eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État lui-même et de lui présenter le rapport, on a constaté que le chef de l'État était vraiment disposé à faire en sorte que les questions s'améliorent. En fait, pour le CNDH, le plus important, c'est que le gouvernement apporte des solutions pour améliorer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des droits de l'homme dans notre pays. Parce que c'est dans l'intérêt des populations que cela soit fait. Et comme on sait que le gouvernement travaille dans l'intérêt des populations, sinon il n'y a pas de mécanisme pour dire mécanisme de coercition ou quoi. Non, on n'a pas de mécanisme. On fait des recommandations. Et même avant même de faire des recommandations, on fait des notes techniques. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on fait des notes techniques sur certaines questions. Nous ne sommes pas une ONG pour dénoncer. Donc on n'attend pas à la fin du processus pour venir dénoncer dans tel ministère, à tel niveau, sur tel... Non, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Quand on constate quelque chose, on fait nos techniques aux ministres concernés et puis des solutions sont apportées. Mais comme c'est un rapport, on doit dire tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons constaté, les rapports, je veux dire, les saisines des populations, on fait le point sur toutes ces questions-là.
Voici Alfred. Vous avez dit plus haut tout à l'heure que le rapport annuel de l'année 2021 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, après présentation au chef de l'État et au Parlement ivoirien à travers ces deux chambres, est rendu public. Alors, ceux qui nous écoutent en ce moment, les auditrices auditeurs, peuvent déjà consulter ce rapport?
Si oui, comment? Le rapport, c'est sur le site du CNDH.
On peut le donner?
Oui, www.cndh.ci. Tous les rapports, depuis que le CNDH produit les rapports, tous les rapports sont là.
Merci à vous, M. Kouassi Alfred. Mot de fin, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir donc, pour passer en revue quelques actions marquantes, comme je l'ai dit en introduction, dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire durant l'année 2022. Pourquoi il est important pour ces Ivoiriennes et ces Ivoiriens qui nous suivent que chaque citoyen ivoirien ait une bonne connaissance de ses droits et devoirs?
C'est pour que la vie soit, on va dire, plus agréable. Parce que si chacun respectait les droits et les devoirs, si chacun faisait en sorte qu'il y ait moins d'atteinte aux droits, si chacun faisait en sorte qu'il y ait moins de violations des droits de l'homme, ce sont les populations qui allaient être victimes, n'est-ce pas, de ces violations, qui ne vont plus être victimes. Ça, c'est d'un. De deux, si ces populations ne sont pas victimes, mais c'est leur mieux-être. Alors donc, c'est pour cela que chacun doit connaître ses droits et ses devoirs. Mais en même temps, puisque ces choses arrivent souvent ou quelquefois, il est bon de savoir ce qu'il faut faire en cas de violation des droits de l'homme. Et quand on ne sait pas, on subit des abus et puis on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Et nous, nous sommes là pour faire la promotion des droits de l'homme, pour leur dire, voilà les voies de recours, voilà ce qu'il faut faire parce que vos droits sont garantis par les tests juridiques qui vous protègent et nul n'a le droit de violer vos droits.
Merci à vous, M. Kouassi Alfred. Je rappelle donc conseiller aux droits de l'homme, représentant des organisations de promotion et de protection des droits des personnes handicapées au Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Quant à vous, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons merci de votre belle écoute, surtout de votre fidélité au magazine Mon Droit au quotidien. Vous l'aurez compris, comme nous vous l'indiquons chaque fois, la bonne connaissance de nos droits et devoirs est importante, non pas pour notre protection à nous seuls, mais aussi pour la protection d'autrui. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite d'écoute de nos programmes et donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Mon Droit au quotidien.
C'était Mon Droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à aussi beau teint.